Bonsoir, avec des confrères journalistes, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. Et pour ce soir, trois thèmes ont été retenus pour vous, à savoir meeting du président de l'UDPS dimanche 24 avril 2011 au stade Tata-Rappel de Kinshasa, date qui correspond au 21e anniversaire du lancement de la démocratie en RDC. Dans notre deuxième thème, nous parlerons de la réhabilitation par la Cour suprême de justice de Richard Ndambou, gouverneur du Bandundu déçu par l'Assemblée provinciale. Et enfin, dans notre dernier thème, nous parlerons des forces vives de Béni Boubéro qui sont contre la signature de la charte de la majorité présidentielle par Bichat Koutouye du Nord Kivu. Pour en parler, trois confrères avec moi dans cette émission pour les débats. Marcel Ngoyi, éditeur du journal La Prospérité, c'est un quotidien qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Marcel.
Bonsoir Félix.
Mike Moukebaï, éditeur de Congo News, un journal qui paraît également à Kinshasa. Bonsoir Mike.
Bonsoir Félix.
Et Jean-Baptiste Badera, secrétaire de rédaction à la radio Maïndéléo, émettant depuis Bukavu au Kivu, et correspondant du Digital Congo à Bukavu. Bonsoir Jean-Baptiste.
Bonsoir Kelly, bonsoir à tous les auditeurs.
Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM et à travers le monde sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, voyons comment les journaux quinois ont analysé les thèmes que nous avons retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Samuel Sakak.
Bonsoir. Le meeting de l'UDPS au stade Tata-Rafael de Kinshasa et la réhabilitation de Richard Ndambou au poste de gouverneur du Bandundu ont, entre autres, retenu l'attention des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Forum des As estime que si le meeting de l'UDPS du dimanche a été une réussite sur le plan de la mobilisation, sur le plan de la qualité du message, c'est un échec. Car Étienne Tshisekedi n'a rien dit de nouveau. Les détails de Brazzaville estime que les propos d'Étienne Tshisekedi font jaser et laissent place à diverses interprétations quant à son contenu. D'après certains acteurs politiques de la majorité, Étienne Tshisekedi est resté constant dans son discours négativiste, assorti de menaces à peine voilées et dénué de toute proposition constructive. Les pro-Tshisekedistes, quant à eux, considèrent ce meeting comme une démonstration de force de l'UDPS et une confirmation du leadership incarné par leur leader, rapporte encore ce journal. Analysant le meeting de l'UDPS, le bi-hebdomadaire Le Climat tempéré titre, qui s'est dit à frapper et les temps ont changé. Le confrère indique que beaucoup d'illusions sont tombées et bon nombre d'opposants tentaient de s'essayer dans la course présidentielle. Après sa démonstration du dimanche, l'UDPS a apparemment récupéré sa place de première force politique de l'opposition dans la ville de Kinshasa, une place occupée par le MLC de Jean-Pierre Bemba en 2006 à l'issue des élections dont l'UDPS avait décrété le boycott. Dirigeons-nous vers la province du Bandundu pour parler de la réhabilitation de Richard Ndambou au poste de gouverneur. La tempête tropique titre, déçu par l'Assemblée provinciale du Bandundu, le gouverneur Richard Ndambou est réhabilité par la Cour suprême de justice. Cette décision ne fait pas l'unanimité, car aussitôt prise, le gouverneur Richard Ndambou s'est vu indésirable au Bandundu où des manifestations se sont opposées à son retour. Forum des As de son côté juge le cas Richard Ndambou comme une humiliation pour les députés provinciaux. Terminons cette revue de la presse par le Nord Kivu où la société civile de Béni et Lubero dénonce le recrutement de chefs coutumiers à la majorité présidentielle MP. Le Phare indique que la société civile se dit préoccupé par la position des chefs coutumiers qui devraient normalement rester au milieu du village et demeurer apolitique.
Merci Samuel Kachar pour ce journal. Le journal Marcel Ngoyi, un mot par rapport à cette revue de presse que nous venons de suivre.
Oui, moi je considère que c'est une revue assez riche, même s'il faut qu'on constate qu'il y a quelques autres éléments qui manquent. Il y a eu des événements de meeting, il y a eu des interpellations de différents ministres qui gèrent différents secteurs de la vie nationale. Donc ce sont des éléments qu'on peut compléter tout au long du débat que nous aurons tout à l'heure.
Merci Marcel, Mike Moussebaï. Marcel a déjà dit, il y a eu d'autres infos au cours de la semaine qui ont fait l'actualité, autre chose par rapport aux deux thèmes qu'il a ajoutés tout à l'heure.
Non, je ne pense pas qu'il y a autre chose à ajouter, mais je suis très contrarié chaque fois que je dois me donner mon avis quand il s'agit de ce que les confrères ont écrit. Je ne suis pas totalement d'accord avec Forum des As quand il dit que s'occupant du contenu, de la qualité, qui se fait dit n'a pas répondu aux attentes. Je crois que je vais revenir dans le débat pour démontrer qu'il a répondu aux attentes par rapport aux enjeux de l'heure. Il ne suffit pas de dire qu'il n'a pas répondu. Je crois qu'un forum de grâce aurait dû aller plus loin pour dire quelles sont les attentes des Congolais vis-à-vis de l'opposition qui évolue dans un contexte pratiquement d'intimidation, de manque de liberté, et que cette opposition doit vraiment se battre pour pouvoir s'exprimer. Je vais revenir
tout au long du débat. Merci Mike. Jean-Baptiste Badera, qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu?
Oui, Kémy, l'actualité ici à Bukavu, quand c'est dominé par le naufrage à survenu le lundi dernier dans le grand lac du lac Kivu. Et comme vous le savez, c'est une embarcation motorisée qui faisait le trafic entre Minova et Bukavu qui a fait naufrage et faisant du coup une trentaine de morts selon des sources proches de la source d'armateurs sur le lac Kivu. Et donc, c'est cette actualité qui domine le débat dans la ville de Bukavu parce que après cela, le gouvernement provincial a pris la mesure qui interdit à toute embarcation ou autre bateau de quitter les ports sans que tous les passagers à bord n'aient leur bouée de sauvetage. Une mesure qui est quelque peu contredite par les armateurs qui estiment que le gouvernement provincial ne veut leur donner un délai évitoire avant de mettre en pratique cette décision parce qu'ils estiment qu'il faut encore mieux se préparer pour vraiment bien respecter la mesure prise par le gouvernement provincial. Mais il y a aussi la question de gestion des bateaux envoyés par le gouvernement central dans la province du Sud-Kivu, qui divise députés provinciaux, surtout ceux du territoire de Idjoui et de Calais, qui estiment qu'il n'y a pas une lumière quant à la gestion de ces bateaux qui vivent.
Merci Jean-Baptiste. Premier thème de ce soir, meeting du président de l'UDPS dimanche 24 avril 2011 au stade de Raphaël de Kinshasa, date qui correspond au 21e anniversaire du lancement de la démocratie en RDC, et tel Tshisekedi a parlé devant plus de 50 000 personnes se trouvant à l'intérieur du stade, pendant que 20 000 autres l'écoutaient à l'extérieur de ce complexe sportif. Dans un discours en Lingala, le président de l'UDPS n'a pas lésiné sur les mots pour critiquer l'actuelle gestion de la République démocratique du Congo avant d'inviter ses militants à voter pour lui à la prochaine présidentielle. C'est un reportage signé Dona Madimba.
Parmi les critiques formulées, Tshisekedi épingle la situation de l'ONATRA, l'Union minière du Katanga, Kelgetamine et la MIBA, que le patron de l'UDPS qualifie aujourd'hui de simples enveloppes administratives. Tshisekedi dit ne pas comprendre pourquoi les régimes politiques se sont succédés depuis l'indépendance en RDC, ont sacrifié ces entreprises, les laissant produire aujourd'hui des recettes très peu significatives. D'ailleurs, ces jours-ci, nous avons appris que nos actuels dirigeants veulent brader ces entreprises. Tshisekedi a aussi invité le régime actuel à permettre la vraie vérité au sujet de la mort de Floribert Chebeya, mais aussi à libérer le pasteur Coutinho, qui selon lui a été arrêté juste à cause de ses opinions. Le leader de l'UDPS a enfin invité ses militants à voter l'UDPS à la prochaine présidentielle, message visiblement bien reçu par les militants présents au Stade Tata Raphaël ce dimanche.
Nous voulons le changement, et le changement avec Étienne Tshisekedi, pas une autre personne.
Notez que Étienne Tshisekedi, contrairement à ses habitudes, a aujourd'hui prononcé son meeting exclusivement en Lingala, une des principales langues parlées en République démocratique du Congo.
Merci, Dona Madimba. Marcel Ngoï, vous avez sûrement couvert cet événement. Quelle analyse vous faites du meeting d'Étienne Tshisekedi?
C'est un meeting qui vient à un moment particulièrement difficile, où de part et d'autre, les activistes des droits de l'homme ont subi beaucoup de pression. Et nous avons de plus en plus l'espace de liberté qui se rétrécit. Et c'est dans cet environnement où l'UDPS vient tenir son meeting. Vous savez que c'est un Tshisekedi donné pour mort qui reprend du coup du poil de la bête dans un environnement extrêmement hostile. C'est déjà un point, un pas par rapport aux craintes qu'on exprimait que l'UDPS n'allait pas tenir son meeting. Souvenez-vous qu'à un moment donné, le ministère des Sports avait fait circuler une note selon laquelle le stade de Tata Raphaël était fermé et que la plupart des lieux publics étaient aussi interdits, plutôt pour des raisons de réhabilitation. Il a fallu un peu de recul de la part du gouvernement, de la part de ceux qui dirigent, pour que, enfin, qu'on accepte que l'UDP puisse tenir son meeting. C'est déjà un point acquis de part et d'autre, du point de vue, bien sûr, des concessions qu'il fallait se faire, ou même de la liberté qu'il fallait octroyer à la liberté d'expression, la liberté d'association, et même des réunions qu'il fallait accorder à l'UDP et à ses alliés de pouvoir s'exprimer dans un stade aussi bondé de gens qui sont venus l'écouter. Je considère que, de ce point de vue-là, il y a eu une avancée. Deuxièmement, c'est le message lui-même. C'est un message axé sur un peu la dénonciation de la malgouvernance, la dénonciation de tout ce qu'il y a eu comme antivaleur qui ont conduit le pays à l'état où nous sommes. Je crois que ce sont des valeurs positives qu'il importe d'intégrer dans le mœurs politique de ceux qui dirigent le pays et de ceux qui assurent à la direction du pays.
Une certaine opinion estime que c'est déjà entendu. Donc, il y a rien de nouveau dans ce meeting de qui c'est qui dit.
Vous n'allez pas dire ça en politique. En politique, la gestion, le pays demeure le pays. Il faut le gérer. On peut le gérer aujourd'hui, demain, après-demain. L'important ici, c'est que les dirigeants qui viennent doivent avoir des capacités d'innovation, de créativité, afin d'apporter le meilleur changement. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous leurrer, nous contenter des promesses faites en 2006 si nous ne pouvons pas être en mesure de les évaluer. Nous ne pouvons pas non plus continuer à encaisser de nouvelles promesses si aujourd'hui on ne peut pas marquer une pause pour pouvoir regarder dans quelle direction on veut nous conduire. Le peuple congolais n'est pas un peuple moutonnier. Ce n'est pas un mouton de panure qu'il faut conduire ainsi. Il faut qu'à un moment qu'on arrête. Et le rôle de l'opposition dans un pays démocratique, c'est justement cette contradiction que l'opposition apporte afin que ceux qui dirigent s'expliquent de mieux en mieux. Vous verrez que plus on dit qu'on n'a rien fait, mieux il y a quelque chose qui s'est fait. Donc il y a au moins à ce moment-là l'équilibre nécessaire qui commence à s'établir. Mais ce n'est qu'un début. Nous pensons que lorsque la campagne sera lancée, le débat de vérité, le véritable débat va commencer. Ça sera à ce moment-là ce qu'on appelle à éventrer les bois, parce qu'on va aller dans les détails pour dire, écoutez, cette route que vous venez de réhabiliter aurait dû normalement coûter autant, pourquoi vous avez dépensé autant. C'est ce débat-là auquel on s'attend. Mais du moins, pour un début, j'estime que c'était dit à donner le signal par rapport, bien sûr, aux enjeux qui se profilent à l'horizon.
Mike Moukeba, il y a plus de 70 000 personnes étaient présentes à ce meeting de Tienne qui s'était dit. Lui, qu'on croyait fini, peut-on parler d'une démonstration de force de l'UDP?
Naturellement, une démonstration de force. Ce meeting a démontré qu'il n'y a pas mieux que ce qui s'est dit pour incarner les aspirations populaires du côté de l'opposition. Vous savez, il y avait un grand débat et le débat n'est pas encore clos sur le candidat de l'opposition. Vital Kamerhe a semblé exprimer ses ambitions à un moment donné. Du côté du MLC également, ce qui a conduit même aujourd'hui à un scission entre François Mwamba et les autres menés par Thomas Louaka. Dans une certaine mesure, dimanche 24 avril, Tshisekedi a mis tout le monde du côté de l'opposition d'accord, que voilà, moi je suis celui qui est capable de conduire à une victoire. Parce que je ne vois pas un autre de l'opposition qui peut se permettre de réunir autant de monde ici à Kinshasa. Et ce n'est que Kinshasa, jusque-là, il est prévu une descente de Tshisekedi à l'intérieur. Je suis sûr qu'il va rééditer le même score dans des provinces comme le Bas-Congo, où il est très attendu, en tout cas selon nos informations. Ce qui me surprend, moi, c'est cette faiblesse d'analyse que je trouve chez certains confrères qui disent que la qualité, surtout le contenu, n'a pas été à la hauteur. Je crois qu'il y a un problème d'analyse de la situation. Mais le discours de Tshisekedi n'était pas le discours du point de vue de Tshisekedi. Il faut bien qu'on comprenne, on n'est pas encore en campagne. Même si Tshisekedi, quelquefois, a fait des digressions, qui laissait voir qu'il sollicitait le suffrage de la population. Mais ce n'est pas un discours de campagne. C'est un discours de Tshisekedi par rapport à une perspective. Tshisekedi est au pouvoir, on ne peut pas lui demander d'aller plus que ceux qui sont au pouvoir posent des actes. Il y a une
Il y a une date, il y a une date fatidique ici, c'est la date du 6 décembre, par exemple, et Tshisekedi a donné une réponse par rapport à cette date. Et nous sommes là depuis 2006, les institutions ont été mises en place, et au 6 décembre, le nouveau président doit prêter ce mot. Tshisekedi n'a-t-il pas apporté la réponse à cette préoccupation? Il a apporté une réponse claire en disant qu'au 6 décembre, il est considéré que le mandat de Joseph Kabila s'arrête. Tshisekedi a abordé des questions fondamentales, des questions liées à l'entreprise, à la gestion des entreprises publiques. Nous le savons mieux. Je suis étonné que ce critique vienne de confort, parce que pourquoi? Parce que la presse est faible que c'était. Nous aurions dû être le premier à dénoncer la gestion de l'entreprise publique. On nous a parlé de la réforme des entreprises publiques. Qu'est-ce qui a été fait? On n'a même pas arrivé à déterminer les capitales sociales de ces entreprises publiques. On s'est contenté d'une estimation. Ça signifie qu'on dit, par exemple, je ne sais pas si c'est le chiffre exact, mais je ne pense pas, que le capital de Nonatra est estimé à 740 millions de dollars. Mais maintenant, on devra ouvrir ce capital. Ça signifie que c'est peut-être plus de 640 millions de dollars et que le surplus va aller dans les poches des individus. Ça, ces débats, nous, la presse, nous ne les faisons pas. Et quand un homme politique prend le courage de le dénoncer, nous disons que son message n'a pas été si fort. Nous sommes devenus, nous, la presse, des complices du pouvoir politique. Nous en sommes une Grèce qui vit de la corruption ambiante à travers le pays. Nous devons comprendre qu'un homme politique prend le courage de dénoncer et nous accompagner ces messages-là. C'est fondamental. Pourquoi c'est aussi important de dire que ce serait bien fait quelque chose? Regardez la réaction qu'il y a eu du côté du PFAD. Jamais vu des tas de gens de leaders du PFAD passer maintenant pour promettre, pour dire qu'il faut donner une réponse adéquate à ce qu'il dit. Mais tous ceux qui disent qu'ils vont donner une réponse, je vous en prie, le proche de la MP hier, le dit, dirigé par un député AMP, disent qu'il faut une réponse. Mais il fallait attendre 4 ans. Tshisekedi était absent. Si pendant les 4 années vous n'avez pas pu occuper Kinshasa, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez préparer la réponse. Si pendant ces 4 ans vous avez habitué les gens à attendre une rémunération pour venir à une manifestation, ce n'est pas aujourd'hui que vous allez changer cela. Tshisekedi a amené au stade des gens disposés, mobilisés pour un idéal. On peut ne pas être d'accord, c'est formidable dans un pays qu'on ait des masses qui sont mobilisées pour un idéal. Si Lula a réussi à changer le Brésil, c'est parce qu'il a convaincu des Brésiliens et qu'il les a impliqués dans un programme.
Vous pensez qu'il a convaincu toute cette population qui est venue le dimanche à son
idéal? Mais je vais vous dire qu'il a convaincu encore mieux. Parce qu'il a réussi à calmer ces gens qui demandaient à descendre tout qui dans la rue. Et ce que les gens ne savent pas, c'était préparé depuis l'extérieur que ce jour-là, on allait envoyer toutes les ambassades du pays à partir de l'étranger, à Paris, à Bruxelles. Et c'est Tshisekedi qui a calmé les gens ici, au stade de Katarafel. Ça, les gens ne le savent pas parce qu'ils ne sont pas informés. Il leur a dit non. Nous nous contentons de rester dans la légalité. Et ça, il a persuadé. Ce jour était prêt. Ils attendaient tout simplement d'ordre pour descendre dans la rue le même jour, parce qu'aujourd'hui, c'est leur album.
Merci Mike Moukeba et Jean-Baptiste Badira, vous êtes secrétaire de rédaction à la radio Maindelo. C'est une radio qui émet depuis Bukavu au sud Kivu, et vous êtes aussi correspondant du Digital Congo à Bukavu. Vous suivez de près les événements qui se passent à Kinshasa, dans la capitale. Comment vous avez analysé ce grand meeting de l'UDPS le 24 avril 2011?
Oui, merci beaucoup, Kelly. Ce discours, je l'ai analysé, comme l'a dit mon confrère Marcel Ngoy du journal La Prospérité. Quand il dit que plus on critique, plus il y a quelque chose qui est fait. Et là, une façon longue de contredire ceux qui ont estimé que ce qu'il dit n'a rien dit de nouveau. Il est resté constant, tel que je l'ai suivi dans la revue de la presse. Je crois que, quelque part, la critique, c'est la parole de l'opposition. Critique, c'est pas seulement négative, elle peut aussi être positive. Et que donc, ce que Tshisekedi a avancé dans son meeting, à mon avis, il y a à prendre avec beaucoup de considération, parce que il a montré des faits vérifiables. Par exemple, quand ils appellent, et qu'en date du 6 décembre prochain, si on n'a pas encore fait des élections, etc., un pouvoir qui ne sera plus légitime, ça c'est clair, ça c'est le délai constitutionnel qu'il faut respecter. Par exemple, quand il dit que l'opposition est située autour de cette logique, il faut qu'on respecte le délai constitutionnel, dans je crois que c'est clair. Mais quelque part, là où je n'ai pas été tout à fait d'accord avec le mot du leader de l'UDPS, c'est quand il dit que malgré les efforts d'autres partis, la date du 24 avril est une victoire de l'UDPS et que les gens de bonne volonté devaient l'admettre, comme je l'ai lu dans le journal de Potentiel, le citant Félix Tshisekedi. Là, je pense que, quelque part, hein, si il faut être très honnête, il y a également un grand travail qui fait saluer du côté, par exemple, du monde étudiant. Les étudiants ont beaucoup souffert pendant toute la période de la dictature du MPR. Ils ont souvent manifesté dans les différentes universités du pays. Et il y a également la société civile qui a également marqué des temps pendant cette période pour lutter pour l'avènement du multipartisme dans le pays. Même si de presse aussi a bâti un travail pas négligeable. Il y a aussi le fait que, quand même, il faut saluer les gens qui ont été mobilisés, qui ont répondu présents à ce meeting de Kim Tshisekedi, parce qu'il n'est pas facile, en tout cas, de mobiliser autour de 50 000 équipes en plus dans un de nos records pour venir assister à un grand meeting d'un des leaders de l'opposition. Il y a également la question des coordinations qui a eu avant la tenue de ce meeting, parce que, comme l'a dit, je crois, Mike Moukeba, il y a des interviews qui étaient faites, les téléphones étaient fermés pour l'une ou l'autre raison, mais après, les autorités ont fini par se raviser. Au moins, là, il faut saluer non seulement la mobilisation, mais également le travail abattu par la police ces jours-là, comme certains confrères l'ont développé, parce qu'au moins là, on a senti que les gens n'ont pas été malmenés, comme c'est souvent le cas. Voilà, en gros, qui dit, je veux donc me résumer en disant que le sous de ce qui est dit est presque resté le même, mais au moins là, c'était quelque chose de palpable, quelque chose de visible, qu'on peut, des indicateurs vérifiables avec la date, le délai constitutionnel, le fait qu'il y a comme synergie autour de l'opposition, mais également là, continuer à rappeler ce qui ne marchait pas dans le pays, une façon aussi d'inciter ceux qui sont au pouvoir à vouloir travailler encore davantage, comme vous l'avez dit en commençant, plus on critique, plus il y a quand même quelque chose qui est fait.
Marcel Ngoï, parlant de la date du 6 décembre, certains observateurs interprètent ce meeting comme un appel à la violence. Votre réaction?
Appeler à la violence, je ne pense pas. La lutte de Tshisekedi a toujours été une lutte pacifique. Tshisekedi, comme tant d'autres acteurs politiques d'ailleurs. Je crois que, comme ça a été, il n'y a pas un problème, il ne faut pas qu'on parle d'apocalypse encore. Moi, je pense que c'est une date constitutionnelle. Le ciel ne tombera pas, mais ce qui est vrai, qu'il faut que les uns et les autres apprennent à respecter, à comprendre que le temps, quand le temps est fini, on ne le stoppe pas. On ne stoppe pas le temps. Donc, il faut exécuter le programme et accomplir la mission dans les délais. Or, ici, des inquiétudes. Si vous me parlez des inquiétudes, quant au respect de la date, oui. Mais parler de l'appel à la violence, je crois que c'est trop dit. Vous voulez parler de
la date n'est pas respectée.
Le vrai problème, c'est justement celui-là. Est-ce qu'on respectera? C'est ça la question. On a choisi la date la plus proche du 6, c'est le 27 novembre, pour organiser les élections. Or, au moment où nous parlons, il y a la loi électorale qui est en discussion au niveau de la PAJ, de la Chambre basse. Cette loi doit venir en plénière et faire le tour pour aller au Sénat. Le Sénat qui a aussi sa PAJ avant de revenir à l'harmonisation pour être envoyé chez le président de la République. Tous ces parcours, ça prend du temps. J'ai même appris que les gens qui travaillent sur la loi ont stoppé momentanément le travail parce qu'ils ne sont toujours pas motivés, ils ne sont pas payés. Donc, il y a un problème ici du temps. Le temps court, il file si vite que les dirigeants sont pris des cours. Donc, il y a quelque chose qui m'inquiète, moi, c'est que le temps que la loi finisse, or, on ne peut pas finir cette loi sans qu'on ait terminé la révision du fichier électoral. Parce que la révision qui donnera le nombre, qui permet de faire connaître quel est le nombre d'enrôlés, d'électeurs qu'on aura, quel est le nombre de circonscriptions électorales, quel est le nombre pondéré des sièges par circonscription électorale, ce sont des données qu'on intègre dans la loi. Tant qu'on n'aura pas fini. Mais on avait, comme vous le savez, l'opération de révision de fichier électoral est en cours. Cette opération a conduit aujourd'hui d'abord à l'annulation de toutes les cartes électorales de 2006, à l'annulation des cartes obtenues même à la faveur d'un début de révision du fichier électoral à Kinshasa. Donc, les opérations coûtent aussi de l'argent. Donc, ça m'inquiète parce qu'autrefois, il y a eu un problème d'argent, des problèmes d'argent dans ce pays. On avait même promis autrefois d'imprimer la carte d'électeur pour pouvoir mobiliser, la carte d'identité pour pouvoir mobiliser de l'argent. Il y a des problèmes d'argent d'un côté, des problèmes techniques de l'autre. Le temps court. Je doute
c'est le temps que la loi électorale soit finalisée. Et surtout le temps qu'on termine avec la révision du fichier électoral pour intégrer les données de cette révision dans la loi électorale. Ce temps, on aura fini la session ordinaire. Mon inquiétude surtout est qu'on risque de terminer cette session sans qu'on ait fini avec la loi électorale et donc sans qu'on puisse avoir un calendrier précis qui tiendrait compte du délai constitutionnel.
Mike Moukébaï, pourquoi selon vous, Tshisekedi a choisi la date du 24 avril ? Est-ce que c'était exprès ?
Non, je crois que la date du 24 avril est une date qui nous réunit nous tous, sauf certains, qui sont venus par la suite et qui ont méconnu tous les efforts qui ont été faits auparavant. Je parle notamment de l'AFDL, quand il a débarqué ici, il a fait monter beaucoup d'arrogance, alors que nous, tous jeunes, nous nous sommes battus contre la dictature de Mobutu, certains d'entre nous, ils ont même laissé leur vie. C'est une date qui nous réunit nous tous, quand elle est symbolique, c'était vraiment le grand jour pour le grand meeting, qui est un sens historique aux yeux des Congolais, et notamment des Kinois. Mais je voudrais en même temps aussi répondre à cette question d'ici, de ça, mais nous devons avoir le sens de la légalité. Il faut que nous comprenions ce que c'est un État. Si nous ne comprenons pas, il est grand temps que chacun d'entre nous rentre dans son village et retourne à l'État sauvage. Si nous sommes dans un État, c'est qu'il y a des normes. Les normes, c'est que si, avant de partir d'ici, j'ai d'Europe, cet ordinateur qui est devant moi, c'est que la MONUSCO peut nous poursuivre. La norme, c'est que quand on dit qu'il faut organiser les élections à telle date, c'est une contrainte constitutionnelle. Ça ne signifie pas que c'est laissé à l'appréciation de ceux qui sont au pouvoir pour qu'ils disent qu'en fait, on n'a pas réussi. Non, il n'y a pas d'excuse possible. Il faut considérer cela comme une contrainte. Et cette contrainte veut qu'au 6 décembre, il y ait un nouveau président. Ça, c'est une légalité établie. Nous ne pouvons pas en discuter. Nous devons tous nous incliner. Mais maintenant, nous constatons une défaillance. La défaillance, c'est que les institutions qui ont été mises en place en 2006 n'ont pas pu nous donneront pas les élections dans le délai. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Il faut que ceux qui sont au pouvoir soient modestes pour proposer la démarche d'un gouvernement national, quitte à ce que l'opposition l'accepte. Et pas ne pas l'accepter. Ça, c'est une possibilité. Certains vont dans ce sens-là. L'autre possibilité, c'est que l'opposition joue au pourrissement. Elle s'est dit, bon, ok, comme il y a maintenant des révoltes sociales un peu partout en Afrique, nous aussi, nous allons pousser les peuples vers une révolte sociale, nous attendons le 6 décembre et nous disons que Kabila n'est plus légitime, et comme ça, les gens descendent dans la rue et nous les chassons par la force. C'est une autre possibilité. Et ce n'est pas une possibilité à condamner politiquement. Parce qu'à dater du 6 décembre, il ne s'agit pas d'un débat de dire s'il y a tel ou tel article qui permet non. À partir du 6 décembre, les institutions qui sont établies deviennent des institutions d'espèce. Elles perdent toute légalité. Je termine une seconde. Parlons de la date du 27 novembre qu'a évoqué Marcel Ngoï. Mais il n'est pas évident qu'on ait des élections à cette date. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que Ngoï Moulunga s'est rendu à Lomé. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Lomé ? Demander des titres. Ça, les gens ne savent pas parce qu'ici, on fait la rétention de l'information. Il est allé demander des kits au président togolais de nous prêter des kits. C'est que nous n'avons pas encore suffisamment de kits aujourd'hui.
En un mot pour conclure, pour mettre fin à ce premier.
Donc, ce n'est même pas évident qu'on aura ces élections-là au 27 septembre. J'ai fait bien déjà l'avis de Marseille sur les autres préoccupations, révision du fichier, loi électorale, mais j'ajoute cette question des kits qui est une moule de l'étalité à chez Salomé. Donc, ce n'est pas évident qu'on ait des élections au 27 novembre.
Merci, Mike. C'est le deuxième terme de notre débat de ce soir, réhabilitation du gouverneur des Sud du Bandundu, Richard Ndambou, par la Cour suprême de justice. Dans son arrêt rendu mardi dernier à Kinshasa, la Haute Cour a jugé d'inconstitutionnel la motion de défiance votée par l'Assemblée provinciale du Bandundu contre le gouverneur accusé de détournement des deniers publics et de malgouvernance. Richard Ndambou revient donc à son poste de gouverneur. Comment en est-on arrivé là? La réponse avec vous, Jeff Ngoï.
C'est sans appel. La haute cour a tranché. L'ambiance a été de joie et de satisfaction à la Cour suprême de justice pour le gouverneur. Le droit vient de triompher sur la politique, ont réagi les avocats du gouverneur. Selon l'arrêt de la cour, le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Bandundu n'a jamais respecté le prescrit de la Constitution. L'article 160 dispose que toutes les assemblées provinciales, comme c'est le cas avec le Parlement et les institutions citoyennes, doivent transmettre à la cour leur règlement intérieur pour statuer sur leur conformité à la Constitution. Or, pendant 4 ans, l'organe délibérant de cette province a évolué sans faire valider son règlement intérieur. Ainsi, l'arrêt annule la motion de défiance. L'Assemblée provinciale se doit d'élaborer un autre règlement conforme. À la différence de la motion de censure qui porte sur la défiance du gouvernement tout entier, celle de défiance concerne plutôt un membre du gouvernement et non son chef.
sa réhabilitation du gouverneur déchu surprend l'Assemblée provinciale de Bandundu. Les députés s'interrogent sur la future collaboration entre eux et le gouverneur Richard Ndambo déchu par l'Assemblée provinciale. Et des manifestations ont eu lieu déjà à Kikri de Bandundu pour protester contre la décision de la Cour. Manifestations qui se sont soldées par 3 morts, dont un policier. Jean-Baptiste Badera, comment vous analysez-vous la décision de la Cour suprême de justice réhabilitant le gouverneur Richard Ndambo qui avait été déçu par l'Assemblée provinciale?
Merci beaucoup, Kémy. Cette décision de la Cour suprême est en tout cas différemment analysée dans la ville de Bukavu, surtout dans la province du Sud-Kivu, parce que vous le savez, c'est la seule province de la RDC qui a connu le départ des deux gouverneurs sur décision des députés provinciaux. Et parmi ces deux gouverneurs, l'un avait quand même réussi à gagner le procès au niveau de la Cour suprême de justice, mais curieusement, il n'a plus été réhabilité. Et donc là, la réhabilitation de M. Richard Ndambo à la tête du Bandundu, c'est en fait quelque chose qui, à Bukavu, se voit un peu, parce que c'est seulement, je pense, c'est le 11 mars dernier que l'Assemblée provinciale l'avait destitué, et un peu, et plus de mois plus tard, il est réhabilité dans ses fonctions. Pourtant, les deux gouverneurs qui ont été déçus à Sud-Kivu, ils ont passé plus de 2 mois à Kinshasa, et à Finish, ils ont été débarqués, ils ne sont plus rentrés dans la province. On sait que le retour de Richard Ndambo, selon mes analyses en tout cas, aurait dû un peu amener à réviser le règlement des comptes entre partisans et adversaires de Richard Ndambo. Mais aussi, il y a le problème, non, cela risque d'amener le problème du Bandundu à l'ingouvernabilité parce que je vois mal comment les deux institutions vont cohabiter, l'Assemblée provinciale, mais également le gouvernement provincial du Bandundu. Il y a donc tout ça, je pense que sur le plan du fond, il y a le fait que la Cour suprême en réhabilitant a estimé que cette motion de défiance contre Richard Ndambo n'avait pas respecté toute la procédure, mais également la non-conformité du règlement de l'intérieur de l'Assemblée provinciale, c'est la forme. Mais le fond reste l'accusation pour mauvaise gestion de tournement de l'union publique. Là, donc, il y a tout un débat qui continue, le débat des fonds donc continue. C'est donc une situation qui, à mon avis, va mettre la province du Bandundu mal à l'aise parce que la population, encore une fois, sera victime quand les deux nations ne s'entendent pas, ne mettent pas sur la même longueur d'onde, c'est encore une fois la population qui va souffrir. Loin de moi l'idée de vouloir faire penser aux gens qu'il faut construire le bonheur sur la décharge du gouvernement. Non, pas du tout. Mais c'est une question de prévenir parce que, en tout cas, je vois mal comment les deux vont cohabiter, je vois mal comment la population pourra gagner cette opposition entre gouvernement provincial et Assemblée provinciale. Je l'ai même déjà senti parce que quand je suis différent des missions dans les médias qui vont, on sent déjà que les deux parties sont en tout cas déterminées à découvrir jusqu'à la fin. Kelly.
Mike Mukibai, la haute cour a jugé d'inconstitutionnel la motion de défiance votée par l'Assemblée provinciale, avançant comme raison le fait que cette Assemblée n'avait pas déposé son règlement d'ordre à la Cour pour validation.
Laissez-moi rire, je tombe à la renverse, laissez-moi rire, c'est très grave ce qui arrive. J'aime tellement mon pays que je ne sais pas être qualifié de République bananière. Mais ce qui arrive, ça c'est digne d'une République bananière. La décision que la Cour suprême de justice a prise signifie quoi? Cette décision signifie que tous les actes posés par le passé, par l'Assemblée provinciale, sont nuls de nous les faire. Parce qu'on dit qu'elle n'a jamais transmis son règlement interne. On ne reconnaît pas cette mesure qu'elle a prise, la mesure de séance. Du fait qu'elle n'a jamais transmis son règlement intérieur, alors si on veut de conséquence, c'est que tous les actes posés par cette assemblée, par les passés, sont nuls et de nul effet. Les problèmes qui se posent ici, c'est le problème de l'indépendance de la justice dans ces pays. La justice est instrumentalisée. C'est selon que le politique veut garder un gouvernement en place ou qu'il ne veut pas le garder en place, qu'il instrumentalise la Cour suprême de justice. Bien des décisions ont été prises dans un sens et par la suite, les politiques ont forcé un gouvernant ou un autre à démissionner. Je crois qu'il y a un problème fondamental de compréhension dans la démocratie. Ce qui se passe là, c'est un problème avant tout politique. Et je crois que la Cour suprême de justice devra à la vie interférer de moins en moins dans un rapport de force entre deux institutions qui finit par établir des relations normales dans une démocratie. Quand un gouverneur
quand un gouvernant est désavoué par la majorité, je crois qu'en ce moment-là, ce n'est même pas une préoccupation de somme qu'il faut mettre en avant. C'est que des gens qui vous ont élu un matin, vous disent un autre matin qu'ils ne veulent plus de vous. C'est que si vous voulez continuer à gouverner avec eux, ça sera impossible. C'est la préoccupation que Jean-Baptiste a évoquée aujourd'hui. Quel climat régnera demain dans le Vandundu? Il a été désavoué, je crois que par élégance, c'est un dame du parti. Dommage pour nous, la politique est partie comme une rente. Et du moment qu'elle est partie comme une rente, on ne part jamais, on reste là, jusqu'à l'humiliation finale. Et c'est cela le grand problème. Et c'est d'ailleurs cette mauvaise interprétation de contradiction entre les assemblées provinciales et le gouvernement qui nous a amené à une autre ineptie, à mon point de vue, à cette disposition constitutionnelle qui veut que le président de la République, désormais, révoque le gouvernement de province. Ce qui s'est passé dans la province n'est qu'un aléa, et un aléa qui permet aux uns aux autres de comprendre comment fonctionne la démocratie. À un gouverneur de comprendre qu'il est désavoué, il est temps de partir. À l'Assemblée provinciale aussi de savoir respecter la procédure. Mais pour les cas précis du Bandundu, ça c'est grave, parce que cette décision de la Cour suprême de justice aurait dû tirer toutes les conséquences et annuler toutes les décisions prises par cette Assemblée provinciale par le passé.
Marcel Ngoyi, le gouverneur déçu, réhabilité par la Cour suprême, les députés provinciaux ne sont pas d'accord avec cette décision de la Cour suprême. Qu'est-ce que peut être la solution aujourd'hui pour éviter que cette province connaisse une crise institutionnelle?
Non, mais on est dans la crise. Dès lors qu'on a ouvert grandement les alvéoles du barillet des règlements des comptes, on tombe à côté de la plaque. Qu'est-ce que nous voulons finalement en démocratie dans ce pays? Regardez ce qui s'est passé, par exemple, avant que je n'aborde la question du Bandundu, ce qui s'est passé à Kinshasa. La paralysie à l'Assemblée provinciale, elle profite à qui? Est-ce que l'Assemblée provinciale de Kinshasa tourne avec Roger Singh? Et pourtant, il est bénéficiaire d'un arrêt de la Cour suprême de justice. Donc, pouvons-nous dire qu'on doit sacrifier le fond par rapport à la forme? Est-ce qu'on doit, lorsqu'on dit que ce monsieur German le gardait tout simplement parce qu'il y a eu un problème de procédure, il y a juste. Moi, je crois que le fond. Le fond, c'est qu'il faut gérer ces pays au mieux des intérêts de ces populations. Il faudra qu'à terme, que ceux qui gèrent la République arrivent à être des vrais comptables des actes qu'ils auront posés. Je pense, pour ma part, que sans tomber dans l'erreur de vouloir la tête de qui que ce soit, je pense personnellement qu'il faut quelque part reconnaître que quand il y a mes gestions, il y a mes gestions. Je ne voudrais pas me perdre dans des conjectures liées à pourquoi il y a eu telle procédure, il y a eu des documents. Mais pourquoi on a laissé cette assemblée fonctionner jusqu'ici? Je peux même me dire que depuis que la législature vient à commencer, c'est que toutes les assemblées provinciales ont fonctionné dans l'illégalité. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit que Kapoukou démissionner. De l'autre côté, on voit le gouverneur de province, comme Jean-Baptiste l'a dit, au sud de Kivu, plusieurs fois, même bénéficier parfois de certains arrêts qui sont politiques et qui sont à leur faveur. Donc on les a vus démissionner. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme Mike l'a dit, il y a ce qu'on appelle les tireurs de ficelle. Tant qu'on n'aura pas compris que la justice, il faut que nous ayons dans ce pays une justice libre, indépendante. Une justice distributive, une justice qui ne court pas à deux vitesses, qui veut qu'on respecte certains actes que les gens posent, mais en vertu des normes établies. Moi, je ne pense pas que nous puissions chaque fois sacrifier l'intérêt supérieur de la nation par rapport aux considérations purement des forces.
Merci, Marcel Ngoyi. Dernier thème de ce soir, la société civile de Béni Loubero dénonce l'adhésion de chefs coutumiers à la majorité présidentielle. Les forces vives qualifient de très grave la signature par 10 chefs coutumiers du Nord Kivu de la charte de la majorité présidentielle à Kinshasa. Sans ce terme que s'est exprimé Omar Kavota, président de la société civile du territoire de Béni et porte-parole des coordinations des sociétés civiles de Béni Loubero. C'était mardi dernier à l'issue d'une rencontre convoqué expressement ce jour-là à Béniville sur cette question. Pour les forces vives, les chefs coutumiers devaient rester neutres et apolitiques. Joint par Joseph Cage, Omar Kavota n'a pas manqué d'évoquer la corruption derrière cet acte politique des chefs traditionnels de territoire de Béni et Loubero.
Nous sommes pratiquement préoccupés par la position des chefs coutumiers de notre province par rapport à leur signature de la
la charte de la MP, alors que le coutumier devrait normalement rester au milieu du village, vient décéder au pied un général tendu par les gouvernants. Ça a pris un caractère politique parce qu'il devait normalement rester à politique, et nous pensons que c'est très grave parce que les chefs coutumiers allaient se sentir comme une composante de la société civile, qui se sentir comme une composante de la société politique. Et derrière tout ça, nous voyons qu'il y a à boire et à manger parce que les mamies ne pouvaient pas s'engager de cette façon-là. C'est quand même une pratique qui dénote une certaine corruption. Et ça, nous devons quand même exiger à ça que force vive, toucher surtout de sauvegarder les valeurs démocratiques et les valeurs coutumières dans notre pays.
Maître Moukébaï, je rappelle que vous êtes éditeur du Congo News, c'est un journal qui paraît à Kinshasa. Je vais vous demander d'être bref dans vos réponses, nous tournons vers la fin de notre émission. Comment vous analysez la position de la société civile au sujet de l'adhésion de ces 10 chefs coutumiers à la MP?
La position légitime, si nous devons considérer les autorités traditionnelles, nous allons les classer où? Nous allons les classer parmi dans l'administration, en fait, en réalité, parce qu'ils sont revêtus d'un certain pouvoir, ils participent dans l'exercice du pouvoir public. Et ce sont ces gens-là qu'on veut maintenant ramener dans un camp politique, en fait, pour embrigader toute la population. Et ça, c'est sûr, nous allons vers des confrontations dans ce contexte-là. Mais ce qui est évident, c'est que ceux qui ont sorti ces stratégies sont en train de se tromper parce que les Congolais sont éveillés et ils feront leur choix librement. Ce n'est pas parce que vous prenez un chef coutumier que vous pensez que toute sa population va avec lui. Mon père m'a mis au monde, je n'ai pas forcément les mêmes opinions que lui. Ma femme est là, elle n'a pas forcément les mêmes opinions que moi, autant que mes enfants. Donc, on se trompe souvent de stratégie, parce que tu sais qu'il dit, quand on est dans une logique, comme on la voit déployée depuis 4-5 ans, c'est qu'on retombe un peu dans le praxis qu'on a connu sous Mobutu. Et là-dedans, il n'y a pas beaucoup de formules. Ce sont les mêmes solutions qu'on remet sur le tapis. Et là, on prend maintenant la solution de recruter des chefs coutumiers en espérant qu'ils vont avec eux enlever la division des populations. C'est très faux. Les populations vivent les réalités que nous partageons tous. Les populations sont assez mûres pour apprécier la situation et prendre une décision le moment venu. Surtout dans le grand ville, il ne faut pas se tromper. Il faut qu'on arrête cette propagande qu'on est en train de distiller matin et midi et soir. D'ailleurs, elle est une merde. Elle va produire l'effet contraire. Les Congolais sont assez mûrs et le moment venu, ils prendront la décision. Et ceux qui poussent ce régime dans ce sens-là, les regretteront ou se feront taper sous le doigt par le chef, par le patron du régime.
Merci Mike Moukébaï, Marcel Ngoï. Vous êtes éditeur du journal La Prospérité, c'est un quotidien qui paraît à Kinshasa. Et vous, quelle réalité vous faites de ce geste de ces 10 chefs coutumiers?
Oui, on peut recruter les chefs coutumiers. On peut élargir les tentacules du recrutement jusqu'au marabout, au féticheur, au magicien. Mais ce n'est pas ça qui va vider le débat. Qu'est-ce qu'on amène comme discours? Si le discours qu'on amène aujourd'hui n'est pas constructif, ce discours ne produira pas de fruits. On a promis des choses. On veut aujourd'hui encore promettre des choses. Ceux qui veulent, qui aspirent au pouvoir, promettent aussi des choses. L'important, ce n'est pas le recrutement des chefs coutumiers. Même si on récupérait les chefs des secteurs, on prenait les conseils des districts, ce n'est pas pour autant qu'ils vont drainer les foules vers le film. Parce que chacun devra mettre sa conscience. Parce qu'il y a des isoloirs. Pour mettre le bulletin d'allure, il y a des isoloirs. Chacun va être seul devant sa conscience. Ce qui est important ici, c'est de construire un discours cohérent, de démontrer qu'on veut, on a mieux, on offre mieux à la République, et non commencer à distribuer quelques billets. Moi, je pense, et même le président de ce coutumier, vous n'avez pas la baguette magique pour gagner des élections. Ce qui est important, c'est de construire un discours de demain, un discours qui fait rêver de nouveau ces peuples, ces grands peuples au cœur de l'Afrique.
Merci, je m'appelle Ngoï, Jean-Baptiste Obadera, vous êtes secrétaire de rédaction à la Radio Maïndélo, et mettons depuis Bukavu, soutenez-vous. Vous êtes aussi correspondant du Digital Congo à Bukavu. Comment la population réagit-elle par rapport à ce geste posé par les chefs coutumiers?
Oui, merci, Kelly. C'est depuis près de 2 semaines maintenant que ce débat est presque présent dans tous les salons ici à Bukavu, parce que il y a également la province du Sud Kivu qui est quelque part concernée par ce débat. Et il faut noter ici qu'avec beaucoup de regrets et presque même de honte, que la population est en train de parler de cette position, de cette démarche des chefs coutumiers, et parce que certaines populations estiment d'abord que quand le chef coutumier part, il part là, il n'a pas l'occasion de consulter toute sa base, et là, il va faire des promesses. Mais est-ce que Dieu, c'est certain que les promesses faites seront exécutées lors des élections, comme l'ont dit les confrères, c'est là à tous les problèmes. Et là, quelque part, ils risquent d'être en train de tromper les gens qui sont en train de promettre par rapport aux prochaines élections.
Merci.
Et donc, c'est très dommage, même de ce que c'est du Sud Kivu, et qui ne fait des marches et vraiment pas très bonne pour la démocratie, parce que la loi sur les partis politiques interdit au monsieur Poutinier de tarer des marches.
Merci Jean-Baptiste Badera, c'est la fin de cette émission. Merci au contraire d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Alain Kong, Samuel Katia, sous la supervision de Pelé, équipe et la Mondo. La technique était assurée par Guy Manzangou, au micro Kelly Douté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocati.net dans tous les programmes sur la fréquence de la paix. Thank you.